musical, on se retrouve toujours avec l'Imaginarium et avec Séverine et ses jeunes. Comme l'année dernière, vous êtes venus parce que vous avez travaillé sur un projet cinéma qui demande quand même du boulot quand même.
Tout à fait. Donc le projet qu'on vient présenter aujourd'hui, ça s'appelle Écris ta série. Et donc qu'est-ce que c'est que Écris ta série ? Eh bien en fait, c'est un défi d'écriture collective pour les jeunes de 15 à 18 ans. Et donc c'est un projet qui a été mis en place pour sensibiliser à l'écriture scénaristique. Donc au départ, c'était plutôt pour des lycéens. Et puis depuis l'année dernière, ça a été ouvert aussi aux collégiens à partir de la quatrième, ce qui explique la présence de Jade et de Adam. Mais c'est un projet qui a été lancé en 2020 par le Centre National de la Cinématographie, donc on le connaît plus souvent sous le nom de CNC. Ouais. Donc, et donc en fait, l'idée, c'est justement en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale de permettre à des jeunes de s'exprimer et de proposer leur série télé idéale. Donc, ils voient beaucoup de choses, mais là, on leur donne la possibilité d'écrire et de décrire quelle serait leur série idéale s'ils avaient les manettes et qu'ils étaient aux commandes.
Alors, l'année dernière, est-ce que vous avez su comment étaient classées vos séries ?
Alors, on n'a pas eu le classement. Malheureusement, on n'a pas été dans la sélection régionale, donc on n'a pas pu aller plus loin, parce qu'on va expliquer un petit peu aussi comment ça se passe. Mais déjà, pour expliquer pourquoi est-ce que nous, l'Imaginarium, on s'est lancé dans ce projet, parce que... c'est quand même, quand on voit au quotidien comment ça se passe, l'instantanéité, les smartphones où on écrit en raccourci, les SMS, ça tout va, et que du coup, on perd un peu le contact avec l'écriture. Nous, ça nous semblait important de démocratiser cette maîtrise de l'écrit. D'ailleurs, il y a un écrivain, je crois que c'est Pascal Quignard, qui disait que la meilleure façon de penser, c'est d'écrire. Et que, justement, avec le tout image et le fait d'être toujours en accéléré, on perd ce contact-là. On l'a vu, d'ailleurs, dans le dernier classement PISA. Donc, PISA, c'est le programme international pour le suivi des acquis des élèves, donc à partir de 15 ans. Il a été réalisé en 2022, donc auprès de 81 pays. Et on s'aperçoit que les élèves français, au niveau de la compréhension de l'écrit, on a un peu perdu quand même, hein. Donc, par rapport au précédent classement qui était effectué en 2018, c'est un classement qui est effectué en points. Et donc, en 2018, on était à 493 points sur la compréhension de l'écrit. Et en 2022, là, sur le dernier, on était à 474 points. Donc, nous, voilà, c'est des choses qui nous touchent par rapport aux valeurs qu'on défend avec l'association et que cette capacité à comprendre, à utiliser, à interpréter des textes écrits, ça nous semble vraiment important dans sa vie de tous les jours aussi, parce que ça permet aussi de mieux s'exprimer, de pouvoir réaliser ses objectifs, de développer ses connaissances et que, ça fait vraiment partie du quotidien et que quand on sait s'exprimer à l'écrit, on sait aussi mieux s'exprimer à l'oral et quand il y a un mal-être ou quelque chose qui ne va pas, ça permet de pouvoir mieux le formuler parce qu'on a les mots pour le dire.
On recentre les jeunes à l'écriture, à façon de parler, ça c'est important parce que c'est vrai qu'on le perd énormément. Hein.
Tout à fait. Et donc ce projet, il nous paraît vraiment très pédagogique et vraiment formateur parce qu'il permet justement de développer l'imaginaire, de s'approprier l'expérience. Mais ils vont en parler aussi et ça permet aussi de débattre et d'échanger sur des idées, de demander l'avis des autres, de s'impliquer. Et donc c'est vraiment très complet. Et puis souvent, ça va de pair quand on est sur l'écriture, on va aussi sur la lecture. Mmh. Et donc, la base de l'Imaginarium, on a vraiment une sensibilité particulière, on l'a dit tout à l'heure, avec les livres et la littérature. Et donc là, on n'en est pas loin, en fait.
On devient intellectuel à l'Imaginarium, en fait.
Oui, mais sans s'en rendre compte et en s'amusant.
Alors les jeunes, oui, justement, ce projet, il vous a apporté beaucoup, justement par rapport à ce que Séverine, elle dit. Est-ce que ça vous a apporté au niveau vocabulaire, au niveau de l'écriture, au niveau de la compréhension ? Qui c'est qui veut répondre ? Non, vous battez pas surtout. Vous allez vous tous y passer donc. Alors allez-y, qui se lance ?
Au niveau de l'écriture scénaristique, donc tout ce qui est théâtre, cinéma, oui, ça, je vois du coup comment ça s'écrit. Et donc du coup, ça a aidé. Là par exemple, on travaille sur le théâtre au collège, et donc du coup ça se rapproche beaucoup de l'écriture de scénarios cinématographiques.
Et toi personnellement, est-ce que ça t'a apporté beaucoup aussi au niveau pour le collège justement, par rapport au français, par rapport à la rédaction, par rapport à la lecture?
Ça développe un peu l'imaginaire quand même, et voilà.
Ouais, d'accord.
Franchement moi perso je me sentis beaucoup plus à l'aise à l'écrit et tout ça, après avoir fait la première édition de ta série. Et du coup, je me trouve plus à l'aise là aujourd'hui pour cette deuxième version.
Ouais.
Et je trouve que...
T'es à l'aise par rapport à quoi ?
à l'aise par rapport à comment écrire mes idées, comment essayer de formuler mes idées à l'écrit.
D'accord.
Quand j'étais à la première édition, j'étais avec Adam justement, et ce qu'on a fait, c'était quelque chose d'assez bien, mais je trouve que franchement, je me suis mieux débrouillé à écrire mon scénario là, cette édition-là, plutôt qu'avant où je trouvais que c'était des fois un peu trop brouillon et qu'il manquait pas mal de choses.
C'était pas dans le futur, vous étiez pas dans le futur, ouais, tous les deux ça. Là
un futur passé...
Un futur un peu spécial, un peu médiéval. Ouais,
voilà, c'est ça, exactement. Tu vois, je me souviens. Jade ?
Moi, ça m'a apporté... Ou ça m'a apporté certaines choses, certaines qualités à l'écrit que j'avais peut-être pas. Par exemple, écrire des textes assez longs, ou je les avais, mais c'était toujours assez brouillon.
Ouais.
Avec écrit ta série, on a appris à y aller plus, à chercher plus d'idées, à chercher plus dans notre tête. Et du coup, ça a aidé un peu au collège. On voit un peu l'amélioration entre la cinquième et la quatrième.
Donc bon, alors après, c'est pas pareil. Entre l'imaginarium et le collège, c'est vraiment deux mondes à part. L'imaginarium, ouais. C'est là où c'est votre cocon où vous vous retrouvez pour, on va dire, se libérer. Que le collège, c'est autre chose, c'est plus sérieux, c'est l'éducation, c'est les devoirs tous les soirs. Donc ça n'a rien à voir, mais ça peut être complémentaire étant donné que ça peut vous aider, justement, comme on dit, au niveau de l'écriture, au niveau de la lecture, au niveau d'avoir envie de lire et de se projeter sur des idées, voilà, tout simplement. Donc Jade, d'accord.
Moi, ça me fait beaucoup plaisir parce qu'en fait, à part... le livre que je fais en ce moment, bah, j'ai d'autres projets que je dis que ce sont mes futurs projets, genre d'autres histoires, et bah, je les accroche dans ma chambre. Et ce qui me plaît, c'est que bah, je peux les mettre dans Écris ta série pour commencer à un petit peu travailler dessus. Et ça m'aide en fait, parce que ça peut me montrer s'il manque quelque chose d'important à écrire dedans, et ça devient beaucoup plus complet pour mes futurs projets, quoi.
Alors, c'est ce que j'allais te dire, justement. Le fait de faire ce scénario, justement, est-ce que ça t'aide, justement, à calibrer tes idées, toi, sur papier ?
Oui.
Ça t'aide énormément sur la création de tes livres, en fait. Parce que ça te fait travailler quand même ton imagination.
L'écriture, oui.
Et l'écriture aussi, en même temps.
Surtout l'écriture, en tout cas.
Est-ce que tu es restée toujours sur le même, comment dire, sur la même lignée au niveau de tes idées de dessin, ou tu t'as évolué par rapport à ça d'année en année ?
Non, franchement, j'ai évolué parce que quand j'ai un truc en tête, je commence déjà à faire une affiche avec le titre. Et Hugues, le professeur... Il remarque que ma première affiche était colorée, après c'est mon truc, c'est un petit peu enfantin, et que le projet que j'ai écrit là, qui parle plus de romance, est un petit peu plus adulte.
D'accord, oui. Après tu grandis aussi, on va dire, hein, aussi. Il y a ça aussi un peu.
Non aussi, ouais. Mais je fais un peu les deux, je trouve un peu mon équilibre.
Bien sûr, complètement. Alors justement, au niveau des idées pour mettre en place ce genre d'atelier, vous faites appel à des intervenants, je présume.
Tout à fait. Et donc là, pour la deuxième année, en fait, c'est Hugues Avitcalo, donc qui intervient auprès des jeunes. Donc c'est la structure CALPROD. CALPROD, en fait, c'est une start-up girondine qui a été créée en 2019. Et en fait, Hugues a développé une plateforme ludo-éducative d'écriture créative. Donc ça veut dire qu'en fait, les jeunes, ils sont pas laissés comme ça tout seuls dans leur petit coin à essayer de se débrouiller pour faire leur scénario. Ils ont une plateforme support qui va les aider à accoucher de leurs idées. Et donc, en fait, cette plateforme, elle va les aider tant sur la scénarisation que l'écriture, que sur la mise en page. Et il y a aussi une intelligence artificielle qui fait partie de cette plateforme et qui va leur permettre de générer les personnages de leur série. Donc moi, je trouve ça magique. Enfin, l'année dernière, ça nous avait vraiment bluffé parce que ce que tu as dans la tête, c'est déjà pas facile à formuler à l'écrit au niveau des idées. Mais alors, pour faire prendre vie à tes personnages, c'est encore plus compliqué parce que toi, tu les imagines. Mais là, en fait, ça permet, en décrivant et en rentrant un script, de pouvoir générer par l'IA les personnages qui sont dans ta tête et de pouvoir les montrer à tout le monde, quoi. Donc ça rend beaucoup plus concret ton projet. Parce qu'une fois que tu as les personnages qui sont générés, ça le rend vivant, ton projet. Et on est sur de la série télé, donc on est quand même sur de l'image.
Ouais.
Donc, il n'y a pas que de l'écriture, quoi. Et je trouve ça vraiment fabuleux.
Alors, l'écriture est importante, puisque sans écriture, il n'y a pas de scénario. Voilà, et pas d'image en même temps. Donc, alors justement, effectivement, l'IA est quelque chose d'intéressant puisque ça permet de pouvoir faire évoluer son projet au bout, en fait.
Mais là, ce qui serait bien, serait peut-être que les jeunes expliquent un petit peu justement les étapes, parce que c'est pas du jour au lendemain, bah ça y est, on se lance sur la plateforme et on écrit. D'abord, il faut avoir les idées, savoir dans quel sens on va partir, sur quel genre littéraire on va partir. Et il y a une démarche que Hugues leur a fait suivre pour ça.
Alors la plateforme, il l'avait l'année dernière aussi ?
Oui, tout à fait. Il y avait aussi la plateforme l'année dernière.
Avant de commencer avec les jeunes, justement, pour qu'ils expliquent comment ça s'est déroulé, leur scénario, on fait une petite pause musicale et puis on se retrouve juste après. Alors comment ça se déroule au niveau de votre projet ? Comment vous avez pu vous appuyer et quelles sont les idées que vous avez eues pour créer votre série ?
On avait Hugues nous avait proposé un jeu de cartes avec à l'intérieur des arches, par exemple, plutôt des thèmes, par exemple romance, dramatique, fantastique, meurtre,
science-fiction.
Policier, science-fiction, il y en avait plein, et on avait des personnages à thème, par exemple une femme militaire, un professeur, ce genre de choses. On avait aussi des lieux. Et je crois que c'était tout.
Non, il y avait une situation dramatique.
Ah oui, et situation dramatique, parce qu'il en faut bien une dans une série. Et on piochait, et on pouvait avoir plusieurs propositions. On faisait en fonction de si on avait aimé, si on n'avait pas aimé, on repiochait. Ou sinon, on pouvait modeler ou regarder directement les cartes pour voir, pour prendre des idées. Ça aidait beaucoup.
Le jeu de cartes ?
Ouais, le jeu de cartes m'a beaucoup aidé.
Ah oui, complètement.
Ouais.
C'est l'année dernière, vous l'avez eu, ça, ce jeu de cartes aussi ?
Oui.
Et ça vous avait aidé aussi ?
Moi, pour ma part, je n'ai pas trop utilisé le jeu de cartes. Je me suis fié à mon instinct, à ce que j'aimais, et donc je n'ai pas trop utilisé le jeu de cartes.
L'année dernière, moi non plus, je n'ai pas utilisé le jeu de cartes, mais cette année, j'ai préféré parce que je trouvais que l'année dernière, ce n'était pas assez complet ce que j'avais fait. Donc cette année, je me suis dit d'aller plutôt vers le jeu de cartes.
C'était quoi ton sujet de l'année dernière ?
Mon sujet de l'année dernière, c'était fantastique. C'était sur une jeune fille qui découvrait tout d'un coup qu'elle était une grande sorcière, qui avait une grande lignée et tout. Mais j'ai pas trouvé ça foufou.
Ah oui. Donc cette année, tu es partie sur autre chose ?
Ouais, de la romance.
De la romance. Ouais, ça n'a rien à voir là, complètement. Ensuite,
Bah pour moi, le jeu de cartes, je trouve que c'était vraiment une très bonne façon de bien choisir le genre de film. Mais... moi, je remarque souvent que j'arrive à m'inspirer facilement de ce que je vois et que dès que j'ai une idée qui me semble assez originale en tête, j'ai envie de l'écrire directement. Et j'ai un futur projet dont je me suis inspirée d'un livre. Et très souvent, c'est que je m'inspire beaucoup des films que j'adore et que je fais un petit peu un mélange de ça, sans copier. Voilà.
Oui, c'est le but aussi. Alors justement, est-ce que vous êtes inspiré de films ou de séries que vous aimez aussi de votre côté ?
Totalement.
Ah oui ?
Absolument.
Il y a énormément de films ou de séries justement qu'on a...
Et puis j'en ai plein aussi.
On s'est inspiré de beaucoup de choses. Pour ma part, je suis inspiré de plein de films fantastiques.
Oui.
Je dirais Le Seigneur des Anneaux, les Star Wars,
ah oui, t'es vraiment...
Harry Potter, tous les films un peu cultes de la science-fiction, on va dire, dans le cinéma et tout ça, et vraiment, chaque fois je prends des idées un peu partout et ça
fait un peu de mashup,
et au final ça me donne des idées, et à chaque fois, quand je regarde mon histoire, je me dis, bah ça c'est marrant parce que ça fait référence à ça, ça c'est marrant parce qu'on dirait un tel film que j'avais vu, il y a jamais eu vraiment un truc que j'ai 100% inventé de tout seul.
Alors, tu as utilisé aussi le jeu de cartes ?
Non, moi c'est marrant, j'ai utilisé plus pour m'entraîner à l'imagination, mais j'ai jamais intégré tout ce que j'avais réussi à donner avec les cartes à mon histoire principale.
D'accord. Alors vous êtes quatre là aujourd'hui, vous êtes en binôme, vous êtes en groupe, vous êtes vraiment...
On est tous tout seuls.
Ah oui, d'accord, ok.
Séparés.
C'est un choix ?
Oui.
C'est un choix,
oui.
Donc vous êtes quatre à présenter une série en fait.
Oui.
Séverine.
Oui, c'est ça. Et en fait là aussi on voit qu'il y a une évolution, parce que l'année dernière c'était en binôme. Alors il y avait Mathilde qui était toute seule. Ouais. Je sais pas après pour... sinon, c'était que des binômes. Hein.
Non, Thaïs.
Ah, et Thaïs, oui. Donc, il y avait Thaïs et Mathilde qui étaient toutes seules parce qu'elles avaient leur propre univers et qu'elles sont parties sur quelque chose de très spécifique. Mais sinon, en fait, je pense que ça rassurait d'être en binôme pour se lancer, pour écrire.
Une première, c'était...
C'est ça, puis ça crée une émulation parce qu'il y a un partage et voilà, on est à deux cerveaux à réfléchir. Mais cette année, ils ont mûri Et ouais. Donc, bah là, ils sont quatre dans le projet. Et donc, bah, tu les as tous. Hein. Et donc, chacun a présenté son propre projet. Et je trouve que c'est aussi significatif parce que là, ils se sentaient suffisamment confiants pour aller sur leur univers propre et développer leur idée à eux.
Alors, on va dire que la première année, c'était un brouillon, on va dire. Ouais. Donc, normalement, ça devrait être sympa cette année.
C'est ça. Et sinon, pour expliquer l'enjeu, en fait... les projets, ils vont être présentés, donc là ils sont jusqu'à début mai pour les finaliser, ils vont être présentés à un jury, et donc ce jury il est constitué de professionnels, et derrière il y a un prix par catégorie qui est attribué, donc il y a le prix du défi écrit à série pour les 15-18 ans, et il y a le prix défi écrit à série pour les collégiens ou ceux qui sont 4e, 3e. Puisque ben, ça peut être présenté soit par des collèges, écoles, lycées, soit ça peut être présenté comme nous par des structures périscolaires en fait. Et donc, en fait, ces dossiers vont être remis au CNC qui va assurer une présélection au niveau régional, ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Et si on a la chance d'être sélectionné au niveau régional, les dossiers finalistes sont transmis à un comité de sélection, cette fois-ci au niveau national. Et donc, le jury est composé avec des professionnels du secteur, donc des scénaristes, des producteurs, des chargés de programme aussi, qui sont aussi... À la recherche de nouvelles idées, je présume. Hein.
Bien sûr.
Et donc, les groupes finalistes sont invités à envoyer un pitch vidéo pour présenter leur série. Alors, ça peut faire peur, c'est pas un teaser. Donc, c'est pas de réaliser, parce qu'on va voir que selon les univers sur lesquels les jeunes sont partis, ça paraît très mission impossible, n'est-ce pas, Lilian? Mais en fait, là, c'est de présenter en vidéo son projet, en fait. Donc, c'est chaque personne présente en vidéo... l'univers, et donc ensuite il y a une cérémonie qui est organisée donc au siège du CNC à Paris en juin-juillet pour cette année, et pour attribuer les différents prix aux groupes lauréats. Donc voilà. Donc ben, l'année dernière effectivement aucun dossier nos dossiers n'avaient pas été sélectionnés au niveau régional, et en fait aucun dossier de Gironde, Charente, Charente-Maritime, Dordogne n'a été sélectionné en national. Donc, bon, on a peut-être une chance cette année.
C'est clair.
On va croiser les doigts. Voilà. Donc,
ils sont combien à se présenter?
Alors, je ne saurais pas te dire. Je sais que Hugues gère déjà 5-6 groupes différents.
Ouais.
Après, l'année dernière, je crois me souvenir qu'il y avait une centaine de projets rien que sur l'Aquitaine. Donc, ça représente quand même un gros volume au niveau national. Surtout qu'il y a aussi les DOM-TOM qui participent.
Ah oui.
Donc, ça représente quand même un gros volume de projets potentiels. Et à la fin, je ne me souviens plus, mais je crois que c'était une dizaine ou une quinzaine de projets qui ont été fléchés et un peu plus identifiés au niveau national, avec 3 finalistes, quoi.
Alors justement, les projets, quand ils sont retenus au niveau national, qu'est-ce qu'ils en font, à part donner des récompenses? Est-ce qu'ils vont les exploiter justement pour réaliser une série? Ou est-ce que ça reste dans les placards et puis on attend
Non, l'idée, c'est vraiment de voir qu'est-ce qu'il y a dans la tête des jeunes et qu'est-ce qu'ils aimeraient voir porté à l'écran. Et donc, même si le projet n'est pas forcément porté à l'écran tel quel, je pense qu'en fait, oui, les chargés de programme, ils s'en inspirent. Parce qu'ils vont chercher des idées, essayer de voir qu'est-ce qui peut plaire à la génération. Ouais. Et puis, bah, essayer de développer des projets dans ce sens-là. Donc, je pense qu'ils s'en servent plus de base d'inspiration que comme une réalisation vraiment...
pure et dure.
Pure et dure, ouais.
Alors, justement, eh bien, on va avoir les inspirations de nos jeunes ici, qui sont dans les studios. Et qui c'est qui va vouloir parler de son projet?
Mon projet, j'ai appelé ma série Henri et compagnie.
Oui.
Qui parle d'un garçon de 15 ans qui vit dans un orphelinat, depuis qu'il est tout petit. Et en fait, il n'aime pas trop sa vie dans l'orphelinat. Il est pauvre et il veut être riche et avoir une meilleure vie. Et à la télé, il voit un jour une émission d'un concours de beauté. Et la récompense, c'est une énorme fortune. Du coup, il s'en va de l'orphelinat en cachette. Et va à Toronto, une ville au Canada, parce que son orphelinat est juste à côté de cette ville. Et il rencontre Jay, une fille de son âge qui est à la mode, et il trouve qu'il pourrait gagner le concours. Et du coup, il lui demande de gagner le concours pour elle.
D'accord.
Pour lui, excusez-moi. Et ils vont se mettre d'accord et trouver tout ce qu'il faut pour gagner. Mais ils vont tomber amoureux. Parce que la série est une comédie romantique et d'action un petit peu, vu qu'à la fin, Jay va essayer de gagner le concours, mais va se faire kidnapper par un soi-disant clown tueur dans un train, et va se faire kidnapper, et Henri va voler à son secours. Et là, on va encore plus ressentir la romance.
D'accord.
Et Henri finit avec Jay dans son immeuble, quoi. Il n'a pas trouvé de fortune, mais il a trouvé quelque chose de plus beau. Il a trouvé l'amour.
C'est beau, ouais.
C'est beau.
La morale de l'histoire, et il y a des choses plus belles et plus importantes que la richesse. C'est la morale.
C'est sympa, super. Merci.
Moi, je suis parti sur une enquête policière en Écosse. C'est Abraham Walter, un riche directeur d'entreprise à la retraite, qui fait une fête parce qu'il passe le million de livres sterling. Et durant cette soirée, il est retrouvé décédé dans son bureau chez lui. Donc l'enquêteur, le coupable, c'est forcément un des membres de la famille. On se rend compte que Matthew Moon, un enquêteur londonien, s'est trouvé à la soirée à l'insu de tout le monde et il va enquêter sur le meurtre.
D'accord, un peu à l'Hercule Poirot, en
c'est
fait.
Ça, inspiration Agatha Christie. Inspiration Agatha Christie.
Ah oui, d'accord.
Le titre, c'est Highland Crow.
Qui veut dire ?
Le corbeau des Highlands.
Ah. D'accord. Ensuite ?
Moi, c'est sur une... On va suivre l'histoire d'une femme qui s'appelle Crystal, qui est une militaire. Du coup, elle n'est pas souvent à la maison. Elle est en mission le plus souvent. Donc, un soir, il va y avoir un énorme repas avec sa famille pour fêter l'anniversaire de sa mère. Et ils vont inviter les voisins. Et les voisins sont des amis qu'ils connaissent depuis un certain moment, mais qui veulent récupérer le terrain de la famille de Crystal depuis que le père est mort. Donc, ce soir-là, ce fameux soir, elle va le re-rencontrer. Son ami d'enfance, qu'elle n'a pas vu depuis ses 13 ans, elle en a 22, hein. Il s'appelle Emmett, c'est un homme politique, du coup il est député. Ils sont peut-être pas du même avis, du coup au début ils vont pas s'entendre, ils vont un peu se chamailler, mais ils vont être heureux de se revoir, parce que depuis leurs 13 ans ils se sont pas revus, ils ont 22 ans. Et ils vont petit à petit s'entendre un peu plus, parce qu'ils vont se revoir tout au long de la série, parce que l'homme, il va avoir besoin d'une protection, ce genre de choses, parce qu'il n'est pas forcément apprécié par la population, par certains de ses choix politiques. Donc au final, ils vont plutôt bien s'entendre, ce qui va leur amener à se voir, à entretenir une relation, et après, à un moment donné, se marier. Mais avant d'arriver au mariage, il va y avoir plusieurs étapes avant. Ce ne sera pas forcément d'un coup et accepté. Du coup, ça s'appelle mariage.
Mariage.
Alors, moi, mon histoire, elle s'appelle Abyssal Frontière, ce qui veut dire frontière des abysses, ce qui annonce déjà un peu la couleur.
Oui.
Donc là, du coup, moi, on rentre beaucoup dans le fantastique, et du coup, ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Arthur, qui est de la vingtaine, on va dire, qui travaille dans une agence secrète. Donc au début, ça a l'air incroyable comme agence. Donc c'est une agence qui s'occupe, en fait, de faire des recherches, en fait, sur le paradis et l'enfer. Parce qu'en fait, c'est un monde où le paradis et les enfers sont connus, tout le monde est au courant que ça existe déjà, et la frontière entre le monde réel et du coup paradis des enfers est très 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 fin. Donc du coup c'est une agence qui s'occupe justement de faire des recherches là-dessus, et ce jeune Arthur a décidé de travailler là-bas. Problème, il travaille en fait dans la petite partie un peu nulle de cette agence-là, vu qu'il travaille dans les paperasses et chez les bureaux, juste recopier du texte ou écrire. Donc lui, son rêve c'était de travailler pour une agence secrète, mais au final il se retrouve à faire un travail un peu morose et nul. Et il apprend du jour au lendemain, du coup, qu'il est l'élu, attention, d'un pinceau. Non, c'est un pinceau magique qui vient justement du paradis. Et ce pinceau-là, du coup, c'est le strict opposé justement du pinceau démoniaque, qui est lui, c'est du coup celui des enfers, qui sert à justement ouvrir un portail entre les enfers et le monde réel pour que du coup les enfers viennent s'étendre et voler et détruire le monde, attention. Du coup, lui, il apprend du jour au lendemain qu'il passe d'une personne inutile quasiment dans l'agence à un mec qui est justement là pour sauver le monde. Donc, il est déjà un peu stressé, mais à la fois, il est extrêmement heureux. Il se dit, c'est mon moment, je vais devoir de sauver le monde. Il sera accompagné de deux amis à lui, donc Quentin, un gars drôle et courageux, et Maëlys, une fille qui maîtrise l'eau. Donc les trois, du coup, ont pour mission de stopper un garçon qui s'appelle Louis. Attention, ce garçon-là s'est fait ressusciter par les démons avec le prince démoniaque pour venir ouvrir un portail dans le monde réel pour pouvoir faire que les enfers arrivent dans le monde réel. Donc c'est assez tordu comme histoire, mais voilà, moi quand j'ai voulu créer ça, ça m'est venu direct, ça me donnait envie. Mais voilà, en gros,
à peine tordu.
On retrouve un peu Lucifer, le film Lucifer de la série, avec un mélange d'autres choses. Effectivement, tu t'en es inspiré de plein de choses.
Plein de trucs.
Donc, tu parlais Harry Potter tout à l'heure, là, sur les derniers. On y est aussi, hein.
Bah oui, tout.
Il y a tout un mélange. Donc ouais. C'est vrai que c'est, il faut suivre après au niveau de l'imagination. Ouais. Mais tu l'avais déjà dans l'idée, cette histoire?
Bah justement, ça faisait très longtemps que je l'avais comme idée.
Ouais.
Mais c'est justement quand on m'a proposé de faire un atelier scénario comme ça, je me suis dit bah pourquoi pas directement écrire cette histoire-là. Donc ce qui est cool, c'est que je suis arrivé avec déjà pas mal de bases. Ouais. Je suis pas arrivé, j'ai pas commencé directement de zéro, j'avais déjà un peu les idées en tête.
D'accord, super. Ils ont de l'imagination, hein, Séverine?
Ouais, non, c'est top. Mais c'est vrai que la difficulté aussi de ce défi, c'est qu'il s'appelle « Écris ta série ».
Oui.
Et qu'en en fait, on leur demande de réfléchir, mais d'imaginer plusieurs épisodes.
Ouais.
Parce que c'est pas juste un long métrage, voilà, c'est pas juste...
Ça s'arrête.
C'est ça, donc il faut réussir à calculer quels vont être les rebondissements et comment ça va se passer pour pouvoir tenir en haleine le spectateur sur plusieurs épisodes.
C'était vraiment dur, ça, pour moi, parce que, en fait, ce projet dont je parle, là, ben...
Oui, il y a un début et une fin.
Pour moi, était censé être un long métrage. C'est vraiment ce que j'ai en tête. En fait, parce que mon livre, c'est vraiment une série que je souhaite. Mais mes futurs projets sont des longs métrages. Du coup, ça, c'était un peu dur. Mais je me dis, bon, c'est pas grave. Je vais faire comme si c'était une série pour quand même essayer de bien l'écrire.
Oui.
Et
garder ton public en haleine pour pouvoir savoir quelle est la suite plus tard, en fait.
Oui, oui, voilà. Bon. Mais j'ai réussi.
Et donc, ben pour cela, ils ont aussi eu de l'aide extérieure. Donc, Hugues, en fait, grâce à son réseau, il leur avait également permis l'année dernière d'avoir une visio avec Julie Ponsonnet. Donc là, ils ont eu aussi la visio cette année. Et donc, Julie Ponsonnet, elle est romancière, elle est prof de scénario, elle est scénariste, mais elle est avant tout... script doctor. Donc là aussi, on comprend bien dans le mot, docteur de script. Donc, ils ont pu présenter en fait chacun leur projet. Et donc, Julie a pu les conseiller pour dire, bah, écoute, ça, oui, ça tient la route, ou ça, non, peut-être qu'il faudrait que tu revoies, ou là, voilà, va dans cette direction. Et en fait, Julie, c'est une ancienne juriste à la base qui a été responsable et éditoriale, mais qui a aussi bossé dans une société de production audiovisuelle, et notamment dans la société qui produisait Des Racines et des Ailes, avec Patrick De Carolis. Et donc après, ben depuis, elle a décidé de se consacrer entièrement à l'écriture. Et donc, elle écrit aussi des scénarios. Donc, elle écrit pour des courts et des longs métrages pour le cinéma. Elle écrit aussi des romans. Donc, elle a publié un manuel d'écriture de scénarios qui s'appelle « L'art d'écrire un scénario » qu'elle a publié chez Erol. Et sinon, donc pour les longs métrages, ben, certains vont connaître, mais elle a participé pour Un Noël en famille. Donc, c'est Belga Film et Polaris Film. C'est avec Didier Bourdon et Noémie Lovski. Et elle a également contribué au script du Million, Le Million. Donc, c'est avec GV Productions et Curiosa Film. Et là, c'est avec Christian Clavier et Ryan Bensetti. Voilà. Donc, c'est vraiment important de pouvoir faire appel à des professionnels. Ouais. Qui ont justement les conseils pour pouvoir les guider. Donc ben, peut-être que vous pouvez nous dire oui, ce que ça vous a apporté aussi, cette visio avec Julie.
Est-ce que elle a vu vos scripts, je présume, et elle vous a corrigé certaines choses sur de votre script, ou pas?
Oui, moi, j'avais des choses qui n'étaient pas forcément très claires. Et donc du coup, là, ça a permis de clarifier certains points et de savoir qu'est-ce qu'il fallait améliorer et où il fallait continuer d'écrire.
D'accord.
Bah, moi je trouve que c'était déjà une très belle expérience de lui parler parce qu'elle sait des trucs, c'est ce que j'admire. Bah, le mien a été assez complet, on a surtout beaucoup parlé de l'histoire et un petit peu de l'évolution.
De pouvoir le mettre en série en fait.
Oui, voilà.
Ouais. Moi, quand je lui ai parlé, du coup, je lui ai raconté toute mon histoire en entier, parce que là, du coup ça a duré un petit moment déjà pour raconter cette histoire un peu tordue justement. Non, vas-y. Ah c'est ça, pour ça, voilà, moi je, voilà, c'était marrant aussi, c'est cool de raconter ça, mais justement elle m'a beaucoup recentré sur le développement des personnages, là où moi avant du coup j'étais beaucoup plus dans
la création de l'histoire au complet. Et là, elle m'a dit, bah attends, fais une petite pause dans, dans l'avancée de l'histoire et reviens un petit peu sur ce personnage-là qui paraît un peu flou tout ça au début. Tu
vois. Oui, parce qu'il te recentre un peu les acteurs, on va dire, sur leur situation. Voilà. Et, parce qu'après, effectivement, s'il doit y avoir une série, il doit y avoir une suite, donc il faut savoir
exactement
quel est le personnage. Est-ce qu'il va peut-être rebondir sur autre chose? Voilà, donc c'est pour me laisser en suspense.
C'est ça.
Il y a peut-être une chance d'être en régional.
J'espère bien.
Moi, elle m'avait beaucoup aidée par rapport à mon script parce qu'il n'était pas forcément complet. Après, j'ai donné pas, enfin, y avait pas mal d'informations, mais c'était bien à recentrer, bien à approfondir. Certains sujets, ils n'étaient pas forcément... ils étaient passés en vue, et ils n'étaient pas forcément approfondis. Après, elle a beaucoup aidé, je trouve.
Oui, vous apportez vraiment un plus par rapport à votre scénario, les jeunes.
Et c'est vrai qu'en fait, c'est un projet où on attend beaucoup des jeunes. Hein. Moi, je trouve que c'est un projet très exigeant parce qu'ils ont quand même... Enfin, chacun, là, ils doivent rendre leur projet, donc on disait tout à l'heure, début mai. Et donc, ils ont une liste à respecter. Ils doivent présenter donc leur projet en une page, bon, jusque-là, ok. Expliquer le concept de leur série, savoir justement sur quel genre ils sont. Présenter les éléments d'arche, donc là ça veut dire bah, combien il va y avoir d'épisodes dans ta série et qu'est-ce que tu vas développer, est-ce qu'il y a une saison, plusieurs saisons, combien d'épisodes dans chaque saison. Présenter les personnages en détail, donc l'IA aide à les générer, mais il faut quand même décrire tout leur caractère et leur présentation physique et morale. Préparer le scénario complet du premier épisode, donc c'est aussi les épisodes, alors, en moyenne une série c'est 25-26 minutes et ça peut être 50 minutes quand c'est les formats longs, mais ça fait quand même du dialogue à écrire et ça fait quand même pas mal de pages à remplir. Ensuite il y a une courte note d'intention qui doit pas excéder une page, et enfin un mood board. Donc le mood board c'est une planche de tendance ou d'inspiration, on en entend beaucoup parler dans le milieu artistique ou dans le milieu de la mode, etc. Et donc là en fait c'est un mood board qui va révéler l'ambiance générale dans lequel se déroule la série. Ben, tout ça, quand on est en classe de quatrième, c'est ça chaud fait, quand même. Hein. Enfin, je trouve que c'est quand même hyper exigeant. Et puis, ben, c'est vrai que le projet, il se déroule sur une quinzaine de séances avec Hugues, ce qui finalement est assez court.
Oui.
Et ça se déroule sur du temps périscolaire. Donc, à côté, ils ont leurs devoirs et leur scolarité classique à tenir. Et c'est vrai que ben, c'est quand même assez exigeant comme projet.
Après, est-ce qu'il y a du travail personnel que vous faites chez vous, justement, sur votre projet de cinéma, même si c'est du périscolaire?
Oui, moi, de temps en temps, je travaille dessus, ouais.
Moi, je ressors l'ordi. De temps en temps, je ressors l'ordi, je prends mon temps, je revérifie certaines choses, et après, dès que j'ai fini, mes devoirs, bien sûr. Les devoirs passent avant, par contre.
Ouais.
Moi, ce qui est marrant, c'est que je verrais pas ça comme un truc pas scolaire, mais je verrais vraiment ça comme une petite passion.
Ouais.
Genre, chaque fois, je viens ici, je viens une fois par mois, je crois que ça. Hein. Des fois, le samedi, faire justement une petite séance d'une journée ou une après-midi de ta série. J'y viens, je suis tout content, je passe un bon moment et après je repars, je me dis bon bah au final j'aurais passé une bonne journée. Mais jamais je me suis dit que j'aurais vraiment travaillé sur un projet qui est demandé, jamais je me dis pas...
c'était pas un projet.
Pour moi c'est pas vraiment un projet à rendre, c'est pas vraiment un devoir, pour moi c'est vraiment juste une petite passion et je fais ça pour mon plaisir.
Ouais, super.
Bah exactement comme lui, moi quand j'y vais je suis toujours de bonne humeur, je sais que je vais un petit peu travailler sur mon plus grand rêve, ma passion et... Et je sais que je vais m'améliorer, je suis toujours contente quand je suis là.
Entre frères et sœurs, justement, est-ce que vous vous aidez par rapport à ce projet ou vous êtes vraiment individuels, chacun chez soi, dans sa chambre?
On s'entraide, mais c'est que moi et lui, on n'a pas les mêmes goûts.
Voilà. Oui, on n'a pas du tout la même vision. Parce
ah oui, c'est clair, parce que...
Là, c'est les deux opposés, vraiment.
Ah oui, c'est ce que j'allais dire.
Il a des goûts de garçon et j'ai des goûts de fille, ouais.
Oh, allez.
en fait, on a accès à la plateforme chez nous parce que c'est un site internet avec des codes à rentrer et
oui.
On a accès à nos projets, donc
bien sûr.
On peut travailler chez nous.
Ça vous aide beaucoup en fait.
Et sinon, oui, pour rebondir sur ce que viennent de dire Lilian et Thaïs, en fait, je trouve ça génial parce que c'est exactement ce qu'on cherche à faire avec l'imaginarium, c'est-à-dire transmettre des choses et faire quelque chose d'un peu pédagogique, mais sans que ça en ait l'air et sans que ce soit une contrainte.